toutes, bienvenue dans notre émission Parlons Foot 47.9 FM sur Fréquencier. Aujourd'hui je suis en compagnie de Valentin et de Dylan. Bonjour.
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 Donc au sommaire, on va parler de la Ligue 1, du Classico notamment, et d'Angers surprenant deuxième, des championnats européens, de l'Euro et de l'équipe de France. Donc on va commencer avec la Ligue 1, avec Marseille qui perd mais est convaincant.
Oh, je n'ai pas vu le match pour ma part. Maintenant les Marseillais se sont inclinés contre les Parisiens, donc ça paraissait un peu logique hein, depuis le début de saison marseillais. Mais ils ont tenu tête quand même aux Parisiens, je pense, durant ce match, d'après les statistiques quand même, c'était pas trop mal.
Sur les 20 premières minutes, la ligne de récupération de Marseille était à 72 mètres et celle de Paris était à 25 mètres. La force de Paris à la base c'est de récupérer haut, là ils étaient très bas,
voilà.
Et Marseille a réussi à...
Maintenant il y a comme d'habitude un Batshuayi inefficace. Que ce soit en attaque ou là par exemple sur un penalty, il rate le penalty magnifiquement,
c'est
bien sorti.
C'est Barada.
Ah, c'est Barada, excuse-moi. Barada aussi, hein, j'ai pas compris le choix de Michel faire jouer Barada depuis le début de saison. Pour moi, il y a meilleur que lui sur le banc. Mais dans l'ensemble, ça restait quand même un beau match. Maintenant, Paris est plus fort. Et puis il y a aussi Ibrahimovic, quelque part, on peut se demander. Si ce n'est pas...
C'est un classico de pénalty, hein. On rappelle Ibrahimovic qui a mis un doublé sur pénalty.
Ouais, enfin, des pénaltys, certes, il y a peut-être pénalty, mais bon, quand même, le deuxième est quand même assez limite. Hein.
C'est litigieux. Hein.
Mais
c'est litigieux.
Bon, voilà, c'est litigieux, mais bon, fallait qu'il marque deux buts pour devenir meilleur buteur du club. Un soir de classico, c'est le meilleur moment pour faire jaillir l'éclair.
Il
enfin,
y a mieux quand même pour marquer des buts, un penalty pour venir rentrer dans l'histoire, c'est pas non plus.
Il a dépassé le célèbre Miguel Pedro Paoletta,
qui lui a mis 5 saisons à battre le record précédent, et Zlatan en a mis 3. Donc
après, pour Zlatan, c'était moins compliqué que pour Paoletta. Paoletta, il fallait qu'il se fasse une image de lui, qu'il montre une performance attitrée à lui-même. Ibrahimovic, il a joué dans les grands clubs, hein, Barcelone,
il
Milan.
Il s'est jamais vraiment imposé. À Barcelone, il a fait une saison, il est reparti.
Oui, mais bon, il a l'expérience d'avoir joué quand même dans ces clubs-là. Il arrive à Paris dans un championnat où finalement, Paris est le seul gros club. Parce qu'il arrive Lyon, c'est pas le Lyon qu'on a connu dans les années début des années 2000. Marseille, c'est clairement pas le Marseille qu'on a connu vers les saisons entre 2007 et 2010. Il n'y a pas de concurrence pour Paris dès qu'Ibrahimovic arrive, donc forcément.
Et si tu regardes chacun sa période, au niveau des années 80, c'était Saint-Etienne, 90, c'était Marseille et Bordeaux, 2000, Lyon, et 2010, Paris.
Pour Ibrahimovic, c'est plus simple de s'imposer dans un championnat comme ça, qui est donc considéré d'un niveau en dessous de son niveau à lui, c'est clairement la réalité. Ça aurait été plus compliqué pour lui-même s'il avait été joué en première ligue.
Il n'ira jamais, a priori, hein.
Non, c'est sa fin de saison dans les grands clubs. Donc, mais bon, tout de même, le record était moins compliqué à battre pour Ibrahimovic que pour Paoletta.
Quand Marseille a fait un bon match, mais on a quand même vu un Lassana Diarra moins en vue que les autres matchs de championnat. Il était là à la récupération, mais après, dans le jeu, on a eu du mal à le voir quand même. Mais il était là au contact physique avec Verratti, avec Mota, en première mi-temps, était totalement inexistant.
Et il était content du match de ses coéquipiers.
Mais il avait de quoi quand même. Marseille a fait un très beau match, même s'il y a encore des joueurs, on a du mal à croire qu'est-ce qu'ils font sur la pelouse. Hein, Rolando, il est lent,
mais il a quand même joué à Porto. Porto qui est le plus grand club du Portugal, a priori.
Enfin, c'était il y a longtemps, quoi. Il y a longtemps qu'il n'a pas fait de foot non plus.
Il a quel âge?
29 ans.
Ouais, comment ça se fait aussi?
Ça fait quelques années que Porto ne titularise plus non plus. Mais bon, c'est un nom pour redorer le blason de Marseille. Maintenant, je le dis depuis plusieurs émissions, Marseille arrivera à redevenir Marseille quand Marseille aura décidé de changer de dirigeant.
Sans prendre la voie, parce que déjà ils ont supprimé les abonnements libres au niveau des supporters.
Oui, mais enfin, Margarita Urdangarin ne partira pas du club.
Sauf s'il y a une grosse proposition arrivée des Émirats.
Ce qui fait peur aux repreneurs étrangers, c'est le public marseillais, a priori. Quand on voit le public parisien il y a 10 ans, c'était les ultras, c'était...
Cette année,
quoi.
C'est un problème, c'est un mauvais début de saison marseillais. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on est moins violent que les Anglais, mais on est sévèrement puni à côté des Anglais. Donc le comportement, il est assez bizarre, hein, en parallèle entre les deux championnats. La Première Ligue, c'est un grand championnat, il y a les restrictions de sécurité, beaucoup moins fortes qu'en France. En France, on est un petit championnat, on est certainement moins violent que les Anglais, mais on se trouve des problèmes. Maintenant, vous regardez, quand Bielsa est arrivé, il y a eu un engouement des supporters, mais il n'y a pas eu de problème durant la saison. Là, c'est des accumulations, c'est des mauvais résultats.
Parce que les résultats n'étaient pas forcément
là, voilà, mais et des erreurs,
le jeu était là. Mauvais résultat, mauvaise nouvelle qui arrive. Quand vous avez déjà le licenciement, la démission de Bielsa, ça fait mal aux supporters.
La saison, elle commence déjà mal d'avance.
Oui.
Et puis, bon, il y a le fait que Valbuena parte de Marseille, passe un an en Russie. Par contre, c'est un comportement inacceptable envers le joueur de balancer des canettes de bière dans le stade.
Surtout déjà,
c'est là qu'on se demande si c'est pas. Non, mais c'est surtout là qu'on se demande si les restrictions sont, ouais, sont appliquées par l'Olympique de Marseille.
Faut pas généraliser à tous les supporters, c'est que 2-3 supporters pas très intelligents qui ont fait ça.
C'est un virage. Hein.
Mais enfin, après, les sifflets ont été faits par tout le stade. Donc là, ça commence de là aussi.
Ouais, mais les sifflets, c'est seulement des sifflets. Il n'y a pas eu d'atteinte. On n'a pas essayé de le blesser en le balançant des
canettes. Non, mais quand on montre un pendu.
Comme disait Valbuena, seuls les vrais Marseillais ne sifflent pas.
Ah, mais il n'avait pas alors beaucoup dans le
il
stade.
Il a raison.
Il n'avait pas beaucoup dans le stade alors.
Donc on va passer à Angers, surprenant deuxième de Ligue 1, promu. C'est un peu, ça me rappelle un peu Montpellier il y a quelques années. Que pensez-vous de cette première partie?
Ça ressemblait à Montpellier, puis quelques années plus tard, Montpellier était champion de France. Angers sera pas champion de France, on sait jamais.
Qui sait, un jour peut-être. Hein.
Peut-être.
On
oui,
peut pas prédire le football dans son ensemble.
Angers est deuxième parce qu'il a su s'adapter au niveau de la Ligue 1. Il a aussi pris beaucoup de points contre des concurrents directs en fin de saison, qui seront importants.
Et contre des grosses équipes comme Marseille, qui sont imposées 2-1.
Il a su profiter des occasions. Hein. Et oui. Il a surtout fait un recrutement intelligent, qui lui permet aujourd'hui d'être à la place à laquelle il est.
Puis Angers a tellement de points d'avance sur la zone rouge qu'on pourrait pas les voir avoir une mauvaise période et se retrouver dans la zone rouge en fin de saison.
Après, il y avait Metz l'année dernière qui a fait pendant 2 mois,
oui,
qui était dans le top
pareil
6.
Lens, c'est... Pareil Lens.
Oh, Lens, c'est encore un cas différent.
Lens était dans le top 10 jusqu'à la 10e journée, jusqu'à aujourd'hui.
Mais ouais, Lens, c'est encore différent. Hein. C'est l'accumulation de problèmes. Mais côté Metz, on avait fait un super début de saison. Et puis, il y a eu une série de 18 matchs
sans
victoire et même que 2 défaites. 18 défaites d'affilée qui ont emmené les Messins
en Ligue 2.
En Ligue 2.
Et Caen aussi qui fait un très bon début de saison. Caen
c'est sur un petit peu sur la continuité de l'année dernière quand même. Hein. La dernière, ils avaient très bien fini.
De l'esprit, ils ont un entraîneur qui aime jouer au foot. Le recrutement a été très intelligent, notamment je pense à Andy Delors en attaque, Bessa au milieu de terrain qui fait un très bon début de saison.
Donc Ferré qui a retrouvé ses jambes de 20 ans.
Ferré était déjà là la saison passée, hein. C'est grâce à Ferré que Caen se maintient aussi.
Oui, en partie.
Et pourtant Caen aurait pu quand même descendre avec les problèmes qu'ils ont eu avec leur président, ça aurait pu très mal tourner et pourtant ils ont réussi à s'en sortir.
Maintenant, il va falloir continuer à avancer parce que cette équipe elle peut acquérir à un moment donné un niveau européen et faire partir du top 6 à mon avis. Elle en a les capacités, donc il va falloir avancer. Mais il va falloir aussi préparer l'avenir parce que Rémi Vercoute, Julien Ferré et Nicolas Seub ne seront pas éternels à leur poste.
Et on va parler aussi de Nice-Nantes. Donc le match a été reporté à cause des intempéries malheureux dans le sud-est. Donc il y avait 2-2 à la mi-temps. Un déluge abattu à la mi-temps, littéralement.
C'était prévu.
Impossible. Hein. C'était prévu, mais c'était n'importe quoi. On pouvait pas jouer. Donc c'est dommage parce que Valère-Germain a mis un doublé.
Ouais, mais peut-être qu'il va en remettre un dans le match qui va se rejouer.
Il avait dit qu'il mettrait un doublé, il a mis un doublé. Et puis
Nantes a marqué deux buts dans le même match.
Il se voit annuler son doublé.
Heureusement qu'il y avait match nul et pas une équipe qui menait parce que ça aurait été très déçu pour l'autre.
Maintenant là où c'est dommage, c'est que le match est annulé, donc les deux buts de Valère-Germain ne comptent pas. Mais la réponse de l'arbitre, c'était il en a marqué deux là, il en marquera trois la prochaine fois.
Donc on va faire un petit jingle avant de passer au championnat européen. Donc nous revoilà, on va parler désormais des championnats européens avec l'Espagne et le Barça notamment, la Juve en Italie, l'Angleterre puisque Arsenal fait plier Man U 3-0. Et le Bayern qui est irrésistible en Allemagne. Donc on va commencer avec l'Espagne. Le Barça qui tombe à Séville 2-1. Sans Messi, blessé pour 2 mois, on le rappelle.
Sans Messi, je pense que c'est même pas obligé de le préciser. Hein, parce qu'ils perdent 4-1 contre le Celta, il y a Messi. Ils gagnent que 2-1 contre la Spalma, il y a Messi. Messi c'est pas le joueur qui aide le Barça depuis le début de la saison. J'ai plutôt envie de dire que c'est Suarez qui porte cette équipe.
Suarez et Neymar, parce que Suarez n'a pas été bon contre Séville.
Les problèmes viennent que commencer pour Barça, parce que Neymar voudrait pas signer son contrat. Même apparemment son agent a dit qu'il faudrait mieux qu'il se tourne vers le Real de Madrid.
Ou Manchester United, on ne sait pas.
Donc les problèmes viennent que de commencer pour Barcelone.
Non, c'était prévisible, le Barça va plonger cette saison. Et puis ce qui est important, c'est pour le FC Séville, qui a un début de saison très 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 compliqué, et parce qu'on le sait qu'ils étaient dans le bas de tableau. Et
ils se relancent.
Et ils se relancent au meilleur des moments.
11e. Et le Real qui a fait match nul contre l'Atlético Madrid dans le derby madrilène.
Un beau match, un pénalty raté de Griezmann qui aurait pu permettre à l'Atlético
de gagner.
L'Atlético a poussé en cette fin de match. Mais n'est pas parvenu à marquer. Mais il faut le dire aussi, heureusement que Navas était là, parce que je pense que le Casillas de l'année dernière n'aurait pas fait ce que Navas a fait cette année.
Mais là, même chose que pour Barcelone, pour moi les problèmes vont bientôt arriver pour le Real, parce que tu as Benitez qui commence à critiquer tous les joueurs du Real. Il a critiqué Ramos pour sa faute qui a apporté le penalty.
Il faut pas qu'il critique Ramos, parce que Ramos était à deux doigts de partir cet été, et il pourrait partir cet hiver ou l'année prochaine.
Il partira.
Et partir, oui. Comme Ronaldo.
Il a critiqué Benzema. Enfin voilà,
Ronaldo.
Benitez commence à se mettre tous les joueurs à dos.
Ronaldo a été conseillé par plusieurs ex-internationaux portugais et par Miguel Pedro Paoletta pour aller au Paris Saint-Germain. Donc c'est le coup d'avance qu'a le PSG sur Ronaldo s'ils avaient à réussir à le faire venir. Maintenant, pour ce qui est de Ramos, tout est financier. Il prolonge son contrat pour ne pas partir libre. Dans le contrat, on met une nouvelle clause, et quand il va partir, ils vont toucher de l'argent. Tout est financier dans l'affaire Ramos.
Surtout dans l'affaire L'Oréal entier. Hein. L'Oréal, c'est l'argent. On va chercher.
Donc, on va passer à l'Italie avec le Milan AC qui s'est incliné 4-0 face à Naples à domicile. Grosse débâcle des Milanais.
Pas de surprise.
Non, ils avaient quand même fait un bon début de saison cette année pour l'instant.
10e seulement au classement, c'est pas du grand Milan.
Ça fait des années que c'est pas du grand Milan. Hein.
Milan recrute depuis des années. Milan n'arrive jamais à trouver la bonne composition. À l'inverse du Sco d'Angers.
Cette année, on attendait le retour des 2000 ans. Pour l'instant, le Milan assez déçoit. L'Inter nous réjouit.
Commence un petit peu à décevoir, parce qu'ils sont pris aussi 4 ou 3-0 chez eux contre la Fio. Attention que ça commence pas les problèmes non plus.
Le Napoli a eu pas mal de problèmes durant l'intersaison, mais depuis ce début de saison, finalement c'est une surprise, parce qu'ils arrivent à gérer leurs problèmes à côté du football. Espérons que ça dure pour eux. Mais ils ont quand même gagné, attends, c'était 4-2 là, contre la Juve. Ils ont
ouais, ça doit être ça.
Oui, 4-2.
4-2 contre la Juve. Donc le fait qu'ils gagnent 4-0, c'est ça, contre Milan.
4-0.
Ouais. Ça paraît logique, un Milan instable. Alors comme je disais, à l'inverse du Sco d'Angers, Milan n'arrive pas à trouver la bonne composition. Parce que recruter, c'est bien, mais il faut réussir à trouver la bonne méthode.
Le Sco d'Angers
a recruté et il a trouvé la bonne composition.
Mais ce que je comprends pas au Milan, c'est que l'année dernière, c'est Ménès qui les sauve en partie.
Et on veut pas de Ménès cette année.
On veut pas de Ménès cette année, alors. Faudrait m'expliquer un peu le raisonnement du
Milan. Ils ont encore changé d'entraîneur, encore.
Oui.
C'est au moins leur quatrième en deux ans.
Mais bon, petit à petit dans la saison, si Milan n'avance pas, on va se retrouver avec la même composition que l'année dernière pour essayer de remonter un petit peu la pente.
On va aussi se retrouver avec un licenciement d'un entraîneur, encore une fois.
Encore, s'il n'y en aura pas deux cette saison.
Possible.
Donc, autre résultat, la Juve qui se reprend et s'impose 3-1 contre le Bologne, avec des buts d'Alvaro Morata, Dybala et Khedira.
Ils se sont fait peur contre Bologne.
Score à la mi-temps à partout.
Fait peur. Ils se sont fait peur contre Bologne.
Palerme qui s'incline 4-2 face à la Roma. Et Empoli qui s'impose 1-0 à domicile contre Sassuolo. Petite surprise, parce que Sassuolo fait un très bon début de saison.
Sassuolo fait un très beau début de saison, mais il a eu de grosses difficultés à Empoli. L'équipe a très bien défendu, c'est le cas de le dire, et pourtant Sassuolo n'a pas manqué d'attaquer dans ce match. Mais le ballon n'a pas voulu rentrer. Puis là où c'est dommage, c'est qu'Empoli marque en toute fin de match. C'était pas forcément mérité, mais Empoli a gagné ce match. Donc
Empoli marque à la 88e minute.
Voilà.
Donc en Angleterre, Arsenal fait plier Man U en lui battant 3-0.
Et en 20 minutes surtout. Ça fait mal. Mais Arsenal, malgré un début de saison, on va pas dire catastrophique, mais un début de saison moyen.
Poussif.
Moyen, a réussi à revenir sur Manchester City et Manchester United.
C'est pour ça que pour moi, Arsenal peut être champion cette année.
Et va se battre, hein. C'est logique. Il y a Chelsea qui est en dehors de la course, Liverpool qui est en dehors de la course.
City, c'est battable et j'ai même envie de dire c'est faible. Ils ont même pris 4-1 à Tottenham. contre une équipe qui défensivement ne sont pas les rois, c'est le cas de le dire.
Ils en ont pris un contre Newcastle. Après.
Donc l'avantage, il est côté d'Arsenal aujourd'hui, même si Manchester était au même niveau avant ce match.
À mon avis, ce sera Manchester United l'arbitre de ce duel.
Et pourquoi pas se créer une place et s'imposer aussi. C'est possible aussi. Hein. Manchester United, cette année, est beaucoup plus fort que l'année dernière et peut battre City.
On rappelle et Arsenal au match retour. City qui s'est imposé 6-1 face à Newcastle. Hein. Avec un quintuplé de Sergio Aguero en 20 minutes.
Le retour.
Chelsea qui s'incline 3-1 à domicile face à Southampton.
Dans la continuité de ce début de saison, Mourinho, en fait, on a l'impression qu'il est plus là en clown, en fait. Il est là pour faire le clown pendant les conférences de
presse. Il amuse la galerie. Hein.
Mais il se préoccupe pas de ce qu'il fait sportivement avec Chelsea.
On va rappeler ce qu'il a dit, c'est que s'il me vire, donc je le cite, hein, ils perdront le meilleur entraîneur du monde.
Ils perdront le meilleur entraîneur, mais ils perdront 50 millions d'euros derrière aussi.
Mais Chelsea. Parce que
la clause de licenciement de Mourinho, c'est 50 millions d'euros.
Mais Chelsea, apparemment, a l'air de le soutenir. Donc, peut-être pas encore le licenciement.
Avec 50 millions d'euros, vaut mieux le soutenir.
C'est vrai. Mais si ça continue comme ça, à un moment, il va falloir s'en séparer.
Mais pour moi, Mourinho vient d'enterrer les espoirs des Blues pour cette saison.
Et Everton qui fait match nul face à Liverpool 1-1. Avec le limogeage de Brendan Rodgers à la fin du match.
Alors le limogeage de Brendan Rodgers, il est compréhensible d'un côté et incompréhensible de l'autre.
C'est de sa faute, hein, au niveau du recrutement. Parce il n'a pas été correct depuis 2 ou 3 saisons.
Il y a eu la saison passée, une saison assez compliquée. Pourtant il sortait d'une saison avant. Ils auraient même mérité d'être champions avec Gerrard, Suarez, Mignolet qui faisait une super saison. Enfin tout le monde était au rendez-vous. Et il y a eu la saison passée, une saison compliquée, où je pense que Rodgers aurait dû être limogé dès la fin de saison dernière. Le président a décidé de repartir avec lui cette saison. Le recrutement fait n'est pas ridicule, il est même très intéressant.
Il n'est pas ridicule, mais ça ne marche pas.
Pour moi,
les joueurs qu'ils ont pris, ce sont de très bons joueurs, donc Firmino, Milner, Daniel.
Il y a quelque chose à faire, sauf qu'à mon avis, il n'a pas trouvé le petit truc qui permettait de déclencher.
Le joueur qui les mène, comme Suarez l'a fait.
Et puis l'équipe qui fait avancer, surtout. Donc c'est le gros inconvénient de Rodgers depuis le départ de Suarez, Gerrard et puis Mignolet qui n'était plus en forme. Donc forcément, quand il y a ces trois points faibles, c'est compliqué. Maintenant, j'ai du mal à comprendre aussi le départ de Rodgers. Pourquoi l'avoir fait après le derby alors qu'il y a un partout, c'est pas une défaite. Donc il n'a pas perdu le derby déjà pour commencer. Et puis surtout, c'est que ça va tuer la saison de Liverpool.
Mais façon
parce
que
ça veut dire nouvel entraîneur. Mais donc on revoit.
Jürgen Klopp qui a été approché, qui serait en passe de signer.
Qui va signer.
Mais il ne signera pas. Il a été approché par le Mexique. Il a refusé des offres. Il a dit je fais une année sabbatique, je la fais en entier. Donc ça serait revenir sur la décision.
À force de lui donner des offres, il va accepter.
Ce serait revenir sur la décision qu'il avait prise en voulant être sélectionneur du Mexique. Moi, je pense que celui-là qui est en passe d'accéder au poste, c'est Carlo Ancelotti.
Il a pris une année sabbatique, mais il a refusé apparemment, Carlo Ancelotti. Et en parlant de cette année sabbatique, enfin, il n'avait pas trop le choix aussi non plus de partir. Hein. On l'a vraiment un peu poussé vers la sortie de Dortmund.
Et Bielsa qui a refusé la proposition du Belgique. Du Mexique, excusez-moi. Donc, en Allemagne, le Bayern irrésistible après sa victoire 5-1 contre Dortmund.
Quel match. Une première mi-temps mitigé, équilibré des deux côtés. Et chacun a eu son temps. Dortmund a mérité d'égaliser dès la première période. Et puis, il y a eu cette deuxième période où Dortmund n'est pas du tout rentré dedans. Et quand vous avez Lewandowski et Müller qui sont présents, ça fait boum.
2-1 à la mi-temps. Hein.
Et c'est surtout que maintenant, il n'y a plus de concurrence en Allemagne. T'as le Bayern Munich maintenant qui gagne 5-1 contre Dortmund et contre Wolfsburg.
Il ne faut pas dire ça non plus. Contre Wolfsburg, la première mi-temps, elle est pour Wolfsburg, clairement.
Oui, mais ce qu'on va retenir, c'est le score. C'est le score.
Il y a 3 échecs pour les poursuivants au titre. En l'occurrence aussi Leverkusen qui s'incline 3-0.
Qui s'incline 3-0 contre Munich, oui. Mais
contre le Bayern. Maintenant, Leverkusen est hors course, clairement. Mais il reste encore Wolfsburg, même si Wolfsburg a fait un faux pas encore ce week-end. Et donc il reste Dortmund.
Oui. Wolfsburg qui s'incline 2-0 face à Mönchengladbach qui est vraiment pas en forme.
Donc c'est pas impossible que Dortmund revienne sur le Bayern. Il y a 7
points. Mais
il y a le fait que Dortmund ait une stabilité. Parce que finalement, Thomas Tuchel, il est arrivé à Dortmund, il a pas changé grand chose. Il a fait venir Castro. Il y a quand même Błaszczykowski qui est parti à la Fiorentina. Ça, c'était une erreur pour moi.
Il a fait partir Ciro Immobilier.
Voilà, mais Immobilier c'était inefficace aussi l'année dernière. 4 buts. Pour 32 millions d'euros, j'achète pas un attaquant qui marque 4 buts. Donc prêté au FC Séville. Maintenant, Dortmund peut encore revenir. Ils ont un gardien qui s'appelle Burki. Ils ont flairé la bonne affaire. Ce gardien qui jouait l'année dernière à Fribourg. Pour essayer de mettre en place une passation de pouvoir avec Weidenfeller.
Et pour l'instant, c'est pas très rassurant. Avec 11 buts pris.
Hein. Ah, 11 buts pris, il y a ce match qui fait que.
Même à Weidenfeller, comment ça sérieux aussi, ça aurait pas été mieux non plus, Weidenfeller.
Mais je pense qu'il aurait dû le mettre quand même dans le match.
Un peu d'expérience,
parce qu'il a l'expérience de ces gros matchs. Ouais. Et cette expérience, Burki l'acquiera en Europa League, mais pas dans une journée aussi importante.
Et petite surprise, c'est le premier Ingolstadt qui s'impose 2-0 face à Francfort.
Pas forcément, puisque Francfort réalise pas un bon début de saison.
Contrairement à Ingolstadt.
Ingolstadt réalise un bon début de saison. Maintenant,
ça reste un premier et Francfort, c'est une équipe qui envoie du jeu.
Rappelons-nous de Paderborn, qui fait un excellent début de saison et puis qui finit dernier.
Il y a deux ans.
Kräuterfurt.
Mais il y a deux ans, Francfort qui avait réussi à accrocher une place européenne.
Oui. Et qui avait très bien joué la compétition européenne.
Donc on va lancer un petit jingle, puis on va passer à la qualification européenne et à l'équipe de France. Donc nous en voilà, on va passer aux qualifications de l'Euro 2016 en France et à l'équipe de France. Donc on va tout de suite passer aux possibilités de qualification à l'Euro.
Alors déjà, les qualifiés à l'Euro, il y a la France, normalement. L'Autriche, normalement, mais on sait jamais. L'Autriche, la République tchèque, l'Angleterre et l'Islande. Une surprise quand même, un petit peu l'Islande. Et
qui réalise trois dernières saisons très très honorables.
L'Islande, c'est dans la continuité des performances, comme dit Enzo.
C'est surtout aussi qu'ils ont la continuité aussi de leur équipe jeune qu'ils avaient. Ils ont des équipes jeunes très,
très performantes,
très fortes,
hein. Et pas qu'en Islande.
Non, pas qu'en Islande. Et il y a aussi ceux qui peuvent encore se qualifier soit ce soir, dans les matchs, le premier match qui va venir, soit dans le deuxième qui va venir. Alors il y en a beaucoup. Il y a l'Albanie, la Belgique, la Bosnie, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, Danemark, Estonie, Finlande, Allemagne, Hongrie, Israël, Italie, Lituanie, Monténégro, Pays-Bas. Ça va être compliqué pour les Hollandais. Irlande du Nord, Norvège, Pologne, Portugal, Irlande, Roumanie, Russie, Écosse, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine. Et Pays de Galles.
Si vous avez tout entendu, vous êtes les meilleurs. Je pense que pour l'Allemagne, parce que c'est le nom que je retiens, c'est qu'ils affrontent l'Irlande.
En Irlande.
Ce soir, en Irlande, et l'Irlande aura à cœur de se qualifier. Donc pour moi, l'Allemagne, avec les difficultés depuis ce début
de qualification
en phase de groupe, c'est pas gagné pour eux ce soir, et quelque part, c'est pas gagné pour l'Euro.
Et dans l'autre match, il y a Écosse-Pologne aussi, les deux équipes qui peuvent encore se qualifier.
La Pologne, pour moi, va se qualifier, elle mérite de se qualifier. Et derrière, il y a l'Irlande qui veut se qualifier. Et l'Irlande va tout faire ce soir pour prendre la place de l'Allemagne.
C'est un groupe de 6. Donc on rappelle qu'il y aura un barragiste pour la 3ème place. Donc a priori, quand même, l'Allemagne devrait.
L'Allemagne devrait se qualifier, mais à quelle place?
Bon, elle va finir dans les deux premiers quand même, l'Allemagne.
Je pense, mais ce serait dommage pour les Irlandais de devoir refaire encore un barrage.
Après, il y a les équipes qui peuvent encore se qualifier, qui vont sûrement se qualifier. C'est le Portugal qui joue ce soir contre le Danemark.
Attention,
oui. De toute façon, le Danemark, c'est leur dernière chance parce qu'ils ont encore. C'est leur dernier match de qualification aux Danois.
Et derrière, il y a l'Albanie qui va avoir à cœur de finir premier. Je crois que dans ce match-là, les barragistes, c'est les deuxièmes.
Dans ce groupe.
C'est aussi
le troisième.
Groupe de 5.
C'est le deuxième.
Maintenant, les deux premiers sont qualifiés et le barragiste est très.
Mais oui, mais il y a la France. Il y a la France qualifiée directement.
Ah, ça va.
Donc du coup, attention Portugal, moi je les pronostique plus en deuxième.
Et élimination du Danemark. Alors,
ce serait élimination du Danemark. Je vois plutôt l'Albanie se qualifier.
Et en parlant d'élimination, les Hollandais hein, qui sont aussi proches de la sortie.
Ouais, mais qui devraient quand même se qualifier malgré l'issue.
Pour moi non. Pour moi ils se qualifieront pas et les barrages seront difficilement accrochables pour eux. Peux-tu nous rappeler qui y a dans ce groupe
la Turquie qui est 3ème, l'Islande et la République tchèque sont déjà qualifiés, et il y avait aussi le Kazakhstan et l'Azerbaïdjan
qui ont tous deux fait une phase de groupe honorable malgré les deux dernières places pour ces équipes. Pour moi, la Turquie redore un peu le blason, et pour redorer clairement ce blason, il faut obtenir une place de barrage.
Après, il faut la qualification après aussi.
Après, mais déjà, les places barragistes, c'est déjà pas mal. Pour moi, c'est la Turquie qui va finir 3ème.
Et aussi l'autre choc qui des qualifiés, c'est la Suède et la Russie. Hein. Mais attention, parce qu'il y a le Monténégro derrière. Il y a le Monténégro derrière.
Ils typent que ça fait un moment qu'ils devraient se qualifier pour une grande compétition.
Ils auraient même dû se qualifier pour la Coupe du Monde. Hein.
Ils auraient dû, oui.
Devant l'Angleterre. Donc le Russie, Ukraine,
la Russie,
Suède, tombe contre des équipes.
La Russie montre des performances intéressantes.
Non, mais c'est pas régulier. Souviens-toi, il y a 3 ans. Donc,
ils étaient parmi les 4 meilleures équipes d'Europe à l'Euro 2008.
À l'Euro 2008, ils étaient dans les 4 meilleures équipes, oui.
Depuis l'Euro 2008,
avec
on n'a pas revu la Russie. Mais il y a quelque chose d'encourageant par rapport au dernier match face à la Suède. La Russie, clairement,
a dominé.
Et les Suédois, sans Ibrahimovic, ont du mal, mais avec Ibrahimovic, ils ont toujours du mal.
Ils ont pris 4-1 contre l'Autriche, chez eux. Donc pour moi, c'est pas vraiment une équipe qui a le niveau quand même pour se qualifier. Et le Monténégro, à ne pas sous-estimer non plus.
Hein. Même si la Suède aura à cœur de vouloir se qualifier pour Ibrahimovic.
Enfin, maintenant,
ils font tout pour Ibrahimovic, à un moment, faut arrêter.
Faut arrêter, oui.
Bah, faut pas oublier ce qu'Ibrahimovic a fait non plus pour la Suède. Hein.
Ah, mais quand on regarde la Suède, ça fait longtemps qu'ils sont pas qualifiés pour une compétition.
Aujourd'hui, la Suède ne serait pas la Suède si Ibrahimovic n'avait pas été là. On dirait quoi de la Suède ? On dirait quoi de la Suède ?
Une petite équipe.
Ce serait une équipe comme le Monténégro, la Turquie ou je ne sais qui.
Mais inférieur, je pense au Monténégro. Non,
là où c'est malheureux pour Ibrahimovic, c'était pour les qualifications à la Coupe du Monde. La Suède aurait mérité de se qualifier aux dépens du Portugal.
Oui, mais maintenant, quand on suit cela, il ne mérite pas de se qualifier pour l'Euro.
Parce que derrière, Ibrahimovic, c'est le pilier, mais il y a des joueurs qui le suivent. Qu'au Portugal, Ronaldo, c'était le pilier, mais il n'avait aucun joueur autour de lui qui l'aidait. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est lui qui.
T'avais Nani, t'avais João Moutinho, t'avais Carvalho.
Pour moi, c'est Ronaldo qui s'est qualifié, pas le Portugal.
Et ça s'est vu à la Coupe du Monde.
Donc on va passer au match de ce soir, la France qui le rappelle, qu'on va rappeler, joue contre l'Arménie. Donc Valentin va nous montrer sa petite composition d'équipe.
Alors moi je ferai tourner l'effectif, hein. Mettrai les ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer contre l'Arménie, ceux qui une belle équipe contre le Danemark. Alors au go, ça serait Mandanda. En défense centrale, Zuma, Mangala, et sur les côtés Digne et Jallet. Au milieu de terrain, Matuidi, Cabaye et Schneiderlin. À gauche, Martial, à droite Lacazette et devant Giroud.
Dylan.
Alors moi dans les buts, Ruffier aurait été là, j'aurais mis Ruffier titulaire. Costil aurait été là, j'aurais mis Costil titulaire. Malheureusement les deux sont, un est blessé et l'autre s'est engueulé avec Didier Deschamps. Donc c'est la raison pour laquelle il n'a pas été sélectionné, hein. C'est un coup de fil avant l'annonce des sélections qui fait que Ruffier aujourd'hui n'est pas là. Donc je ferai comme Valentin, je mettrai tout de même Mandanda qui réalise un début de saison plus compliqué que Loris. Mais
un meilleur qui a sauvé Marseille contre
un meilleur début de saison que Hugo Lloris. Ensuite, donc en défense, moi je mets aussi Luca Digne donc sur le côté avec Christophe Jallet. Mangala, moi je ne le titularise pas.
Est-ce que tu sélectionnerais déjà ?
La question est là, on sait que t'as un peu de mal avec Mangala.
Mangala, pour moi, il réalise pas. Il vaut pas le prix qu'il a coûté à Manchester City, clairement. Et en équipe de France, c'était pas ça. Moi j'aurais mis plus Debuchy.
Debuchy dans l'axe.
Ah oui, il a joué dans l'axe.
Avec Zuma,
il a réussi à mettre Terry sur le banc et maintenant il va se retrouver sur la touche.
Pour cette sélection, on a fait venir Zuma parce que bon, il fallait
le faire venir.
Essayer quelque chose, tout comme on l'a fait avec Martial, avec Ntep, avec ses joueurs. Donc Zuma, Schneiderlin en au milieu de terrain, oui. Diarra. Pourquoi pas, mais est-ce que ce serait pas un peu tôt pour faire jouer Diarra ?
Il faut leur donner de la confiance tout de suite.
Et puis après, bon, il y a le trio Matuidi, Valbuena, Griezmann, qui est pour moi indissociable au milieu de terrain. Et puis bon, pour ce qui est de l'attaque, je ne mets pas Benzema, je ne mets pas Lacazette. Et moi, je donne quand même, malgré tout, une chance à Giroud. Même si, encore une fois, pour revenir sur ce qu'on avait fait, ce que je disais avec l'Allemagne la dernière fois, Modeste a encore fait une passe décisive et un but ce week-end.
Donc pour moi, ce sera Mandanda dans les buts, une charnière Mangala Zuma, arrière droit Jallet, à gauche Digne, mes 2-6 c'est Diarra et Schneiderlin, mon milieu offensif Valbuena, mes milieux sur les côtés c'est Martial à gauche, Griezmann à droite, et dans l'axe c'est Alexandre Lacazette.
J'ai même envie d'envoyer Cabaye en milieu défensif à la place de Diarra.
C'est pas vraiment. Il joue là en équipe de France, mais pas avec Crystal Palace. Crystal Palace, il joue plus haut.
Il joue 8.
Il joue plus haut, mais avec Paris, il jouait plus bas.
C'est ce qui n'a pas réussi justement. Mais Cabaye, Cabaye est plus un 8 qu'un 6.
Mais il faut pouvoir s'adapter pour Cabaye, parce que on sait qu'au milieu de terrain, milieu offensif, c'est assez bouché quand même. Hein. Valbuena, Griezmann, Matuidi, c'est du costaud.
Pogba,
Pogba aussi. Mais Cabaye, sur ce genre de match, je pense que c'est le moment de mettre Cabaye. Plutôt que de faire commencer Diarra, pourquoi pas mettre Cabaye au milieu défensif.
Pour revenir à ce que tu disais, tu t'es dit que tu ne sélectionnerais pas Mangala, alors tu sélectionnerais peut-être pourquoi pas Aymeric Laporte après.
Aymeric Laporte, alors maintenant les propos.
Je comprends pas pourquoi il est pas en équipe de France.
Les propos qu'il a tenus dernièrement ne sont pas des propos qui me donnent envie de le faire venir. Il a dit que si la France ne voulait pas de lui, il irait jouer en Espagne.
Bah comme Imbula, je rejoins en Belgique. Hein.
C'est quelqu'un d'impatient et qui n'a pas sa place en équipe de France. Tout comme Imbula. Mais Imbula, c'est encore autre chose. Hein. Lui, c'est le choix de. C'est un choix personnel, je pense, la Belgique.
Bon, il ne serait pas sélectionné autant qu'il aille prendre la sélection du Congo. Au moins, il a une chance d'être sélectionné. Bon, pas faire l'Euro ou la Coupe du Monde.
C'est là que c'est incompréhensible. Il a trois pays dans lesquels il peut jouer. La Belgique, la France, le Congo.
Enfin, le problème, c'est qu'il est né en Belgique et il joue en France et il est originaire du Congo.
Et il est congolais. C'est peu compréhensible. Faut revoir le code de nationalité à la FFF. Parce que ces joueurs-là pourraient jouer avec les équipes jeunes de leur sélection attitrée. Et ça permettrait une évolution, notamment des pays africains qui n'atteignent pas le dernier carré de la Coupe du Monde.
Il aurait pu avoir le Ghana. Donc, pronostic pour le match France-Arménie ce soir.
Bah, la France m'a gagné.
Un score
2-0.
Pour moi, ce sera un match nul.
3-1 pour la France. Donc, c'est là-dessus qu'on va se terminer dans notre émission Parlons Foot 47.9 FM sur Fréquence Ciel. À la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.